Roland Marchal, bonjour.
Bonjour.
En début de semaine, les présidents érythréens et somaliens ont signé des accords pour rétablir leurs relations diplomatiques. Est-ce qu'il y a un lien entre, d'une part, ce geste politique fort et, d'autre part, le rapprochement diplomatique qui est survenu il y a quelques semaines et auquel on a assisté entre l'Éthiopie et l'Érythrée?
Oui, tout à fait. Il faut se souvenir que les relations entre l'Érythrée et la Somalie pendant la guerre civile n'ont pas été spécialement denses. Elles le sont devenues un peu au moment où les tribunaux islamiques en 2006 prennent l'offensive enfin, dans une guerre qui les oppose à ce qui reste des factions claniques et reçoivent une aide de l'Érythrée à ce moment-là, une aide militaire qui va se poursuivre pendant plusieurs années, avec comme condition l'hébergement et la facilitation du transit de groupes armés éthiopiens par la Somalie vers l'Éthiopie. Et c'est évidemment sur cette base-là que le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis un embargo sur des sanctions supplémentaires sur l'Érythrée. Et donc, d'une certaine façon, la reconnaissance de ce qui s'est passé depuis, c'est-à-dire le gouvernement somalien est reconnu par l'Érythrée, que l'aide des Érythréens aux groupes insurgés et à Al-Shabaab n'est plus du tout effective. Bon, tout ça existe, mais finalement, ce rapprochement reste possible aujourd'hui parce que d'abord, l'Éthiopie a une autre conception de ses relations régionales et ne va pas prendre un coup de sang comme elle l'a fait en 2006, simplement parce que Érythréens et Somaliens discutent.
A-t-on une idée de ce qui se joue derrière ce fameux plan de stabilisation de la Corne de l'Afrique, signé il y a quelques semaines par Addis-Abeba et Asmara, et surtout qui a été, disons-le, parrainé par les États-Unis, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis?
C'est là aussi alors une autre source d'inquiétude, c'est-à-dire que la guerre, elle a cristallisé un certain type de corps politique dans tous ces pays. Vous avez des gens, des partis, des organisations politiques, un système économique qui finalement s'est installé dans la guerre. Et tout d'un coup, dire bon bah tout ça c'est terminé, on peut de nouveau commercer, bon, tout ça risque de provoquer en Érythrée et en Éthiopie, au niveau des politiques économiques, de cristalliser des résistances assez fortes. Ça d'un côté, et puis de l'autre côté, vous avez quand même le fait que cette normalisation, qui va en faveur d'une paix régionale, elle peut aussi avoir des conséquences de l'autre côté de la mer Rouge qui sont tout sauf la paix. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très inquiétant et qui va fragiliser le processus parce que, si vous voulez, on a des États mercenaires comme Djibouti, bon, qui ont oublié, quand même tous leurs liens avec le Yémen. Mais on a l'Érythrée qui a des liens très anciens. Jusqu'où est-ce qu'il faudra accepter de voir le Yémen déconstruit, annihilé, simplement pour éviter à Mohamed Ben Salman et à son ami émirati de perdre la face? Donc, faut se rendre compte que oui, il y a la paix, mais que d'une certaine façon, la paix ici, c'est un aiguisement de la guerre de l'autre côté. Donc, ce n'est pas une situation d'équilibre.
L'Éthiopie a formellement demandé aux Nations Unies de lever les sanctions contre l'Érythrée. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir l'Érythrée perdre, entre guillemets, son statut de d'État voyou?
L'ouverture des relations entre la Somalie et l'Érythrée, quand même avec cette onction éthiopienne, elle vise à ça. Elle vise à montrer que l'Érythrée, ben, c'est un État qui se comporte comme un État et qui est responsable comme un État. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les Érythréens ont fait ça? L'Érythrée, elle a joué cette carte-là, pas simplement parce que comme mouvement armé, elle a accueilli d'autres opposants. C'est aussi parce que l'ordre régional qui s'est cristallisé autour de la nouvelle Éthiopie faisait que l'Érythrée était juste un petit pays mendiant à 4 millions d'habitants qui n'avait pas grand-chose à offrir à part Massawa et Assab, les deux grands ports qui étaient Ashaland et le Tigray pour Massawa et puis le reste de l'Éthiopie pour Assab. Et point final.
Suite au dégel des relations entre l'Érythrée et l'Éthiopie, qui s'est notamment engagée à respecter l'accord d'Alger concernant un différend sur la démarcation de la frontière, est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre à voir une solution émerger dans le cas de Djibouti, qui entretient également des relations compliquées avec l'Érythrée, notamment à cause d'un litige territorial?
Oui, et on peut s'y attendre, mais encore une fois, le conflit entre Érythrée et Éthiopie n'est pas du tout de même nature que celui entre l'Érythrée et Djibouti. Deuxième chose, nos amis djiboutiens ont très bien su profiter du conflit avec l'Érythrée Et donc, d'une certaine façon, la balle, elle est évidemment dans le camp de Lysias Afewerki, mais elle est aussi, et je dirais encore plus, dans celle de Ismaël Omar Guelleh. Et on va voir si l'homme qui accueille autant de bases militaires dans son petit pays est capable de faire la paix avec son voisin.